Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi, Jean-Mélène Bitti.
Bonjour à toutes et à tous, au menu de ce 12h de Radio de la Paix. La filière Anacard à la Côte d'Ivoire représente 40% de l'offre mondiale pour une production de 1 225 935 tonnes en 2023, une information donnée par le directeur général du conseil coton Anacard lors de la tribune Tout savoir sur. La fixation des prix des produits agricoles en Côte d'Ivoire était récemment au centre d'une conférence à débat organisée par le Centre de recherche d'action pour la paix, le CIRAP. En page internationale, nous parlerons du premier sommet Corée du Sud-Afrique à démarrer hier pour prendre fin aujourd'hui à Séoul. Plusieurs milliards de dollars d'aide et de soutien à l'investissement annoncé pour l'Afrique. Et puis l'invité de la rédaction d'aujourd'hui sera Dr Germain Cramaux. L'économiste fera une analyse des retombées possibles du premier sommet Corée du Sud-Afrique qui prendra fin ce mercredi 5 juin à Séoul. Sur le sujet, Dr Germain Cramaux répondra aux questions de Jean-Claude Comé. Ouvrons cette édition avec la tribune Tout savoir sur du CICG qui avait pour invité ce mardi 4 juin 2024 le directeur général du conseil de régulation du coton et de l'Anacard. Dr Adama Koulibaly a échangé avec les journalistes sur la situation actuelle, les avancées et les défis de ces deux filières. Junior Cardin y était pour le compte de Radio de la Paix.
D'entrée, le directeur général du conseil coton Anacard, Adama Koulibaly, s'est réjoui des résultats atteints par ces deux filières depuis la réforme de 2014.
Au niveau du coton, l'axe majeur a été le zonage. Cela a permis de ramener la sérénité dans la filière et la performance également. Campagne 2010-2011, au sortir de la crise, la production de coton graines était de 174 000 tonnes. 2015-2016, 310 000 tonnes. 2020-2021, 559 000 tonnes. Et campagne 2022-2023, nous avons eu affaire aux jacides qui ont ramené la production à 236 186 tonnes. Et pour la campagne 2023-2024, la production a été de 347 922 tonnes.
La même satisfaction a été notée au niveau de la filière Anacard.
On est parti de moins de 500 000 tonnes au moment de la réforme à une progression qui nous a mené à 1 225 935 tonnes en 2023. Pour la campagne en cours, nous avions projeté une production de 1 250 000 tonnes, mais compte tenu des aléas climatiques, nous avons dû réviser nos prévisions autour de 1 million de tonnes.
Mais au dire du docteur Adama Koulibaly, les efforts se poursuivent afin de renforcer ces deux filières au profit des acteurs, surtout nationaux.
C'est pourquoi la transformation, qui est l'élément essentiel pour garantir la production, est donc notre challenge, que ce soit dans le coton ou que ce soit dans l'Anacard.
Sur ce plan, de bonnes visibilités se signalent, surtout au niveau de l'Anacard, où plus de 300 000 tonnes seront transformées cette année. Mais aussi, faut-il avoir accès au marché, a reconnu le directeur général du conseil coton Anacard.
Mettons le cap sur Boaké où, dans quelques mois, les besoins des populations de cette ville en logement seront comblés. Et cela grâce au maire de la commune qui, en collaboration avec un partenaire privé, a procédé le week-end dernier à la pose de la première pierre de 1500 logements sociaux et de haut standing à Cessanois, localité rattachée à la ville de Boaké. Écho de cette cérémonie avec Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Boaké.
Le démarrage des travaux de construction de la cité Éco-Ville Harmonie de Boaké débuteront en juillet prochain, selon l'opérateur immobilier chargé du projet. Siriki Sangaré donne les détails de l'opération.
Il y a 1500 logements pour la première phase, avec 500 logements standing et 1000 logements socio-économiques pour permettre à toutes les filles et tous les fils de Boaké d'avoir vraiment un logement.
Cette cité qui sera bâtie sur 238 hectares comporte beaucoup d'avantages, à en croire l'initiateur Amadou Koné, maire de Boaké.
La cité va évoluer. Donc, je voudrais vraiment remercier les chefs traditionnels, propriétaires terriens donc, qui accompagnent ce projet-là, de la réalisation de ce projet. La construction, évidemment, ça va créer beaucoup d'emplois pour les jeunes à Boaké et ça va nous permettre donc, de mieux maîtriser l'urbanisme à Bouaké. On est vraiment dans une situation d'aménagement du territoire qui est important, de se projeter, d'avoir un nouveau quartier aménagé aux standards internationaux, qui nous permet de travailler à la restructuration, à la rénovation donc des anciens quartiers.
Par ailleurs, le maire Amadou Koné a annoncé pour la commune de Bouaké plusieurs projets. Il s'agit entre autres de la construction d'un nouvel abattoir, d'une boucherie moderne, d'une nouvelle gare routière, la réalisation d'une école internationale. À cela, déjà s'ajoute la création d'un service d'aide à domicile pour les personnes âgées et vulnérables. Joseph Assalé, Bouaké, Radio de la Paix.
De Bouaké, direction l'ouest du pays, et parlons de l'investiture du président de la mutuelle du village de Gbablasso dans le département de Biankouma. Pour l'occasion, les autorités ont entre autres exhorté au développement de la localité et à la cohésion sociale. Les échos de la cérémonie avec Stéphane Adams.
Le président du conseil d'administration de la mutuelle de développement de Gbablasso, investi ce jour, a exprimé toute sa gratitude au chef de l'État pour les nombreux projets réalisés à Biankouma, Loi Touré.
On a connu vraiment un grand retard. Et aujourd'hui, le président est venu, il est en train d'arranger notre village, une grande route entre Biankouma et Sipilo qui passe dans notre village.
Le chef de village abonde dans le même sens, Dro Diomandé.
Dans le département de Biankouma, je peux citer 6 collèges. Construit en 2 ans. Il y a l'hôpital général qui est en projet. Si les élus et cadres sont unis, on aura plus.
L'union et la cohésion sociale, gage des développements de Biankouma. Cette vision que partage le chef de cabinet du président de la République, Claude Sahy Soumaoro, avec les populations qui s'en expliquent.
Le peuple d'Ang est l'allié objectif direct du peuple Senoufo. Donc il n'est pas possible que nous ne puissions faire autre chose que ce que le président Alassane Ouattara nous demande de faire puisqu'il est notre allié objectif. Et le peuple temps se mettra avec lui pour réussir le développement dans notre région du Tombo.
Pour le soutien de l'autonomisation des femmes du village, Claude Sahy a remis le don du président de la République à la mutuelle du village, don composé de tricycles, de décortiqueuses de riz, de broyeuses et de presseuses de manioc. Stéphane Adams, de retour de Gbablasso, Radio de la Paix.
Rendons-nous à Korogo où un atelier relatif au renforcement des compétences des autorités d'enquête et des services de renseignement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et les crimes environnementaux s'est ouvert le mardi 4 juin et pour prendre fin le jeudi 6 juin 2024 en direction de 25 participants, tous issus des corps de la police, de la gendarmerie, des eaux et forêts et des douanes de la zone nord. Sur les grandes lignes du dit atelier, écoutons le colonel-major Touré Albert, directeur de l'école de police Amadou Gonkoulibaly de Korogo et par ailleurs directeur de la formation au ministère de la Sécurité et de l'Intérieur. Il est au micro de notre correspondant régional Tommy Corona.
Le constat, c'est tout simplement qu'il y a eu un rapport d'évaluation mutuelle du groupe d'action financière qui a imposé des recommandations à la Côte d'Ivoire à l'effet, n'est-ce pas, de renforcer les compétences de ces autorités d'enquête et de poursuite pénale. Et effectivement, dans la mise en œuvre de ces recommandations, il faut bien que les autorités qui sont en charge des différents secteurs puissent réaliser ces activités-là au plus vite pour que, véritablement, auprès du groupe d'action financière, l'image de la Côte d'Ivoire soit redorée. Attendre d'eux qu'ils comprennent bien le phénomène du blanchiment des capitaux qui serait souterrain au financement du terrorisme et qu'ils s'imprègnent donc des techniques sur le terrain afin de faire en sorte que leurs enquêtes soient des enquêtes de qualité. Les modules qui seront dispensés, il y aura la spécificité des enquêtes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, l'impact de ces différentes activités sur le cadre de vie et puis la connaissance du phénomène en lui-même. Donc des éléments qui vont dans la généralité avant d'en arriver au rassemblement des preuves par exemple et aux défis et les enjeux pour la Côte d'Ivoire.
À l'instant, le colonel-major Touré Albert, directeur de l'école de police Amadou Gonkoulibaly de Korogo et par ailleurs directeur de la formation au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le prix du cacao est en défaveur des producteurs ivoiriens à cause du système mis en place par le gouvernement, dénonce Prao Yao Séraphin, professeur d'économie à l'université Alassane Ouattara de Boaké. C'était lors d'une conférence débat en présence du conseil Café Cacao organisé par le CIRAP, le Centre de recherche et d'action pour la paix, vendredi dernier, sur la question de la fixation des prix des produits agricoles en Côte d'Ivoire. Le point avec Christelle Yesso.
Les producteurs ne profitent pas du prix des matières premières, notamment celui du cacao, pour cause l'inadéquation du système, explique professeur Prao Séraphin, maître de conférence et panéliste.
Regardez comment le prix exportateur est partagé. 2017-2018, pour que le prix cas était de 1250. Sur les 1250, l'État a dit 275. Les intermédiaires payent 225. Et au final, le pauvre paysan, il a payé 750.
Un dysfonctionnement qui guette les autres productions. Tano Roger, responsable exploitation d'unités agricoles.
Ce que vit aujourd'hui le cacao, il y a des filières qui vont le vivre bientôt. Même si les filières telles que Pali à lui semblent être pour le moment très bien structurées, on n'est pas à l'abri de ce que le cacao vit actuellement.
L'augmentation du prix du cacao sur le marché mondial a aussi été discutée. Arnaud Koudou, représentant du conseil Café Cacao.
Les 5 000 francs au Cameroun, c'est fake news. Parce que les 5 000 francs, c'est 150 tonnes d'un cacao spécifique que les chocolatiers ont voulu payer parce qu'ils estiment qu'en ajoutant ça à leur mélange, ça leur donne un goût que les clients réclament.
Ce à quoi répond professeur Prao.
Quand on me dit qu'au Cameroun, ce sont des fake news, la structure Café Cacao doit mieux organiser nos pauvres paysans pour que nous ayons un cacao de qualité. Il faut réduire les intermédiaires.
Les discussions se sont achevées sur un certain nombre de propositions pour l'amélioration du secteur agricole.
Restons toujours dans le domaine agricole où l'APROMAC, Association des producteurs du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, ambitionne de matérialiser la labellisation du caoutchouc naturel ivoirien conformément à sa vision de fédérer pour développer une filière performante, compétitive et durable au service de tous les acteurs. Elle a de ce fait organisé le mercredi dernier à Yamoussoukro un atelier de présentation d'un projet de labellisation de cette matière première ivoirienne. Les détails avec Émile Yao.
L'Association des producteurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, se fixe pour objectif d'améliorer le revenu des producteurs, des usiniers et de l'ensemble des opérateurs économiques de la filière caoutchouc, d'où l'importance de ce projet de labellisation, explique son président de conseil d'administration, Charles-Emmanuel Yassé.
En effet, la Côte d'Ivoire, en tant que premier producteur africain et troisième producteur mondial de caoutchouc naturel, se doit d'innover et de se démarquer sur le marché international. Le projet de labellisation que nous venons vous présenter, s'inscrit donc dans une dynamique d'excellence et de valorisation de notre production.
La réalisation d'un tel projet nécessite la contribution de tous les acteurs de la filière, indique Charles-Emmanuel Yassé.
Au cours de cet atelier, nous aurons l'occasion de partager d'importantes informations, d'échanger sur le projet qui vous sera présenté, afin de pouvoir élaborer une norme consensuelle acceptée par tous.
Tout en qualifiant l'initiative d'ambitieux, le représentant du ministère de l'Agriculture, du développement rural et des productions vivrières, André Kwaku Kwasi, s'est voulu rassurant.
Permettez-moi enfin de réitérer l'engagement du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, à soutenir ce projet de labellisation. Nous sommes convaincus que cette initiative apportera des bénéfices durables à la filière EVA de Côte d'Ivoire et contribuera de manière significative à l'essor de notre économie.
Rappelons que le projet de labellisation du caoutchouc naturel ivoirien est évoqué par la PROMAC depuis février 2023.
Et puis, nous apprenons le décès ce jour de Mariam Diko, première femme chimiste de Côte d'Ivoire, dont le visage était sur la pièce de 25 francs CFA, indique une source proche de la famille de la défunte. Nous reviendrons sur cette disparition dans nos prochaines éditions. Hors de nos frontières au Nigeria, au moins 30 mineurs sont bloqués sous terre depuis 4 jours dans l'état du Niger, dans le centre du Nigeria, après l'effondrement d'une mine à la suite de pluies torrentielles, a déclaré à l'AFP ce mercredi un responsable des services de secours de la région. Le nombre exact de mineurs piégés n'est pas connu dans l'immédiat et les secours n'ont pas pu se rendre dans la zone de l'effondrement en raison de l'insécurité qui règne dans le district de Siroro. Coopération entre la Corée du Sud et les pays africains. Le premier sommet Corée du Sud-Afrique qui se tient du 4 au 5 juin 2024 s'est ouvert mardi à Séoul, la capitale sud-coréenne. Et à cette occasion, le président sud-coréen a annoncé plusieurs milliards de dollars d'aide et de soutien à l'investissement pour l'Afrique. Et cela dans un contexte où ce pays asiatique cherche à renforcer ses relations commerciales avec le continent et son approvisionnement en minerais critique. Plus de détails avec vous, Jean-Claude Comey.
Le président sud-coréen s'engage à accroître l'aide et les liens miniers avec l'Afrique. Axe de coopération que propose le président sud-coréen, c'est le renforcement de la coopération sur les minéraux et les technologies critiques, avec pour objectif d'améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement du pays dans des secteurs clés tels que les batteries. Et acte concret pour atteindre cet objectif, c'est l'augmentation de l'aide publique au développement de la Corée aux pays africains à environ 10 milliards de dollars jusqu'en 2030, soit plus de 6 000 milliards de francs CFA. De même, cette aide publique au développement vise à encourager le commerce et les investissements sud-coréens en Afrique. Et dans ce sens, la Corée du Sud fournira 14 milliards de dollars de financement à l'exportation, soit plus de 8 000 milliards de francs CFA. Il faut noter que pour l'instant, les échanges entre la Corée du Sud avec les pays africains représentent moins de 2% du total des importations et exportations. Il faudrait donc augmenter ce pourcentage, d'où l'intérêt que portent les dirigeants africains à ce premier sommet du genre. En effet, des représentants de 48 pays africains, dont 25 chefs d'État, participent à ce sommet de deux jours qui a pour thème l'avenir que nous construisons ensemble, croissance partagée, durabilité et solidarité.
Nous en arrivons à l'invité de la rédaction qui ce jour est Dr Germain Cramaux, enseignant en économie et chercheur à la CAPEC, cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES. Dr Germain Cramaux analyse les retombées possibles du premier sommet Corée du Sud Afrique de Marée hier mardi 4 juin et qui prendra fin ce mercredi 5 juin à Séoul. Sur le sujet, Dr Cramaux est interrogé par Jean-Claude Comey.
Dr Germain Cramaux, bonjour.
Et bonjour, Monsieur Comey.
La Corée du Sud, pays asiatique, reçoit une cinquantaine de pays africains. C'est un premier sommet entre la Corée du Sud et l'Afrique. Pourquoi la Corée du Sud aussi se met dans la danse des échanges avec l'Afrique?
Effectivement, la Corée du Sud se met dans la même dynamique que les autres pays occidentaux en renforçant ses relations avec le continent africain. Donc, il s'agit de plus en plus de diversifier ses partenaires et en vue de s'implanter durablement sur le continent africain.
Alors, si on vous demandait de présenter la Corée du Sud en termes économiques, que dire?
Oui, la Corée du Sud est une puissance économique, surtout en termes d'innovation. Donc, c'est un pays qui innove beaucoup, pour lequel nous avons beaucoup à apprendre, surtout au niveau des technologies.
Et elle est considérée comme la 10e économie mondiale. Justement, la question se pose aussi au niveau de la démarche. Hein. Un pays qui rencontre plusieurs pays d'un continent, on le voit avec des sommets États-Unis-Afrique, Chine-Afrique, Turquie-Afrique, France-Afrique. Pourquoi ces pays développés ont une vision donc globale avec donc le continent? Pourquoi cette approche-là?
Oui, déjà, je pense que d'abord, en termes de minimisation de coûts, déjà, s'il faut organiser un sommet pour chacun des 54 pays, cela reviendrait un coût très élevé. Et puis, de plus en plus, l'Afrique essaie de passer d'une seule voie avec la mise en place de la zone de libre-échange continentale, vu qu'il n'y aura plus de barrières tarifaires entre ces pays. Et déjà, la Corée entretient des relations bilatérales avec chacun de ces pays déjà. Donc, je pense qu'ils veulent aller au-delà de ces relations bilatérales en essayant plus ou moins d'avoir une vue globale des échanges avec l'Afrique.
Que gagne donc la Corée du Sud à organiser un tel sommet concrètement?
La Corée du Sud gagne beaucoup déjà. L'Afrique, c'est un marché potentiel et c'est un pays qui innove beaucoup. Donc, ce pays a besoin de marché. Et l'Afrique, de plus en plus, avec l'émergence de cette nouvelle classe moyenne, il y a un pouvoir d'achat qu'il va falloir capter. Donc, l'Afrique devient de plus en plus un continent très attrayant pour ces pays.
Mais quand nous parlons de l'Afrique, nous parlons aussi de sa richesse minière. Est-ce que ce n'est pas tout cela aussi qui attire ces pays puissants, au nombre desquels la Corée du Sud?
Oui, ces pays ont besoin de matières premières et l'Afrique est une source de matières premières. Donc, ces pays essaient de plus en plus d'avoir des relations privilégiées avec les pays africains. de plus en plus, c'est un continent où les pays ont des croissances assez élevées. Donc, il est de plus en plus urgent que ces pays puissent se tourner vers l'Afrique afin de pouvoir tirer profit de ces opportunités.
Alors, que gagne l'Afrique donc à avoir un partenaire comme la Corée du Sud?
L'Afrique gagne beaucoup et je pense que pour les pays africains, ils doivent aller au-delà des gains économiques et surtout viser plutôt les gains au niveau culturel. Et la Corée du Sud est un pays qui a été colonisé, qui est aujourd'hui, comme vous l'avez dit, la 10e puissance mondiale. Donc nous étions au même niveau que ce pays dans les années 60. Et aujourd'hui, ce pays se retrouve parmi les grands pays du monde. Nous avons beaucoup à apprendre au niveau de la culture et je pense que c'est à ce niveau-là que l'Afrique doit essayer de voir comment tirer le meilleur profit de la culture, de ce qui a fait le déclic dans ces pays.
Vous l'avez dit, hein, des pays comme la Côte d'Ivoire dans les années 60-80 avaient à peu près le même PIB que la Corée du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un tel pays soit aujourd'hui à ce niveau-là?
Et je pense que nous avons beaucoup à apprendre de ces pays et surtout ces pays ont fait le pas grâce à un leadership transformationnel. Donc les leaders ont tracé le chemin, ont posé, je peux dire, les jalons qui ont permis à ces pays de plus ou moins d'être des pays assez développés. Donc nous avons beaucoup à apprendre au niveau du leadership, nous inspirer de comment ces pays sont arrivés à passer d'un pays en développement à un pays au stade de pays développé, et aussi nous inspirer beaucoup de leur culture.
Un aspect comparatif donc des économies africaines, notamment l'économie ivoirienne et l'économie sud-coréenne. Aujourd'hui c'est un pays, pour parler de la Corée du Sud, hyper développé au niveau de l'industrie, pratiquement 25% de son PIB, comparativement à la Côte d'Ivoire qui est pour l'instant essentiellement un pays agricole. Pour vous, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre d'eux justement en termes de cheminement?
Et en termes de cheminement, nous pouvons beaucoup apprendre, comme je l'ai dit d'abord au niveau du leadership, de deux, au niveau des ressources humaines. Il faut une formation adaptée de qualité.
On a noté un peu une présence dans les années 60-80 donc de l'État dans les investissements, avec une orientation dans l'industrialisation. Est-ce que pour vous aujourd'hui c'est un chemin à suivre? Est-ce qu'on doit revenir à cet état des faits?
Je pense qu'il faut combiner les deux approches. Aussi bien aujourd'hui, notre PND est tiré par le secteur privé, mais il y a les domaines pour lesquels le privé a besoin que l'État trace d'abord les sillons. L'État ouvre les voies pour que le secteur privé puisse s'engouffrer. Donc nous pensons qu'il est indispensable aujourd'hui que l'État joue son rôle. S'il y a des secteurs pour lesquels le secteur privé ne trouve pas rentable, l'État peut d'abord tracer les voies et ensuite le secteur privé pourra s'y engouffrer. Donc effectivement, vous avez parfaitement raison. L'État doit jouer un rôle important dans ce processus d'industrialisation en fixant les priorités et en imitant les moyens nécessaires.
Docteur Germain Carmeau, je vous remercie.
Merci Monsieur Comé.
Aujourd'hui, l'invité de la rédaction, l'économiste Germain Carmeau, était avec Jean-Claude Comé. Ce qui referme les pages de ce journal, dont voici le rappel de l'essentiel. La filière est anacarde. La Côte d'Ivoire représente 40% de l'offre mondiale pour une production de plus d'1 200 000 tonnes en 2023. Une information donnée par le directeur général du conseil coton anacarde lors de la tribune Tout savoir sur. La fixation des prix des produits agricoles en Côte d'Ivoire était récemment au centre d'une conférence à débat organisée par le Centre de recherche et d'action pour la paix, le CIRAP. En page internationale, premier sommet Corée du Sud-Afrique a démarré hier pour prendre fin aujourd'hui à Séoul. Plusieurs milliards de dollars d'aide et de soutien à l'investissement annoncé pour l'Afrique. Merci de votre attention à 15h pour une autre édition, mais avant la revue de la presse ivoirienne proposée par Mel Emmanuel.
Bonjour à toutes et à tous. La ville d'Abidjan a connu hier une journée noire avec deux événements malheureux. D'une part, l'effondrement d'un immeuble dans la commune de Cocody et d'autre